Élégie 5. Loin de moi, Cupidon et son carquois. L'amour n'est pas d'un assez grand prix pour que je invoque si souvent la mort. Oui, c'est la mort que j'appelle quand je songe à ta trahison, perfide beauté, née hélas pour faire à jamais mon malheur. Ce sont près des tablettes mal effacées qui mettent ta conduite à nu. Ce sont point des présents, reçus furtivement, qui révèlent ton crime. Plutôt Dieu, qu'en t'accusant, je ne puisse te convaincre. Malheureux, pourquoi m'a-t-elle et quelle cause est-elle trop bonne? Heureux l'amant, qui peut hautement défendre sa maîtresse, et à qui son ami peut dire « Je ne suis pas coupable ». Il a un cœur de fer. Il se complaît trop dans son courroux, celui qui poursuit une victoire que doit ensanglanter la condamnation d'un coupable. Par malheur, j'ai tout vu quand tu me croyais endormi. J'ai vu ta perfidie d'un œil que ne troublait pas le vin qui m'était servi. Je vous ai vu vous parler par le mouvement de vos sourcils et converser par de fréquents signes de tête. Tes yeux ne restèrent pas muets, et des mots furent tracés avec le vin sur la table. Tes doigts même trouvèrent un langage. Malgré vos efforts pour le cacher, j'ai pénétré le sens de vos discours. J'ai compris ce que voulaient dire les signes dont vous étiez convenus. Déjà, la plupart des convives avaient quitté la table desservie. Il ne restait plus que deux jeunes gens plongés dans l'ivresse. Alors je vis s'unir vos coupables baisers et vos langues se confondre. Oh, ce n'étaient pas les baisers que reçoit d'un frère une sœur vertueuse, mais ce qu'une maîtresse tendre donne à un amant passionné. Ce n'étaient pas les baisers que Phébus donnait sans doute à Diane, mais ce que Vénus prodiguait à son cher Mars. « Mais que fais-tu ? » m'écriai-je. À qui s'adressent ces faveurs qui m'appartiennent? Mes mains se lèveront pour défendre mes droits. Je dois seul te donner des plaisirs, comme tu dois seul m'en donner. Ils nous ont commun, et pourquoi un tiers prendrait-il part à tes caresses? C'est ainsi que s'exhalait ma colère, et le rouge de la pudeur couvrit bientôt ses joues coupables. Ainsi se colore et rougit le ciel, devant l'épouse de Titan. Telle paraît une vierge à la vue de son fiancé. Ainsi brillent les roses au milieu des lys qui les entourent. Ainsi rougit la lune arrêtée dans sa course par quelque enchantement. Telle encore l'ivoire d'Assyrie qui tient la main d'une méonienne pour l'empêcher de jaunir avec les années. Ainsi se colora son visage, ainsi je vis changer tour à tour, et jamais peut-être elle ne me parut plus belle. Elle regardait la terre et ce regard était ravissant. La tristesse était peinte sur son visage, et cette tristesse était pleine de grâce. Ses cheveux, ses beaux cheveux, je faillis les lui arracher. Ses joues délicates, je faillis les meurtrir. Et en contemplant sa beauté, mes bras nerveux tombèrent d'eux-mêmes. Et ma maîtresse trouva sa sûreté dans ses armes. Moi, tout à l'heure menaçant, je me jetais suppliant à ses pieds et la priais de me donner de bien doux baisers. Elle sourit et m'accorda avec amour le baiser le plus tendre, un de ses baisers, qui arracherait à la main irritée de Jupiter sa foudre étincelante. Ce qui me tourmente aujourd'hui, c'est la crainte que mon rival n'en ait reçu d'aussi délicieux. Je ne voudrais pas que les siens eussent été du même titre. Ce baiser, cependant, annonçait plus d'art qu'elle m'en doit à mes leçons. Il me sembla qu'elle avait appris quelque chose de nouveau. Le charme fut trop puissant, et c'est un triste présage. C'est pour mon malheur que nos langues, en se croisant, passèrent mutuellement sur nos lèvres. Et pourtant, ce n'est pas là ma seule peine. Ce ne sont pas seulement ces baisers voluptueux qui causent mes larmes, quoique j'ai des raisons pour en concevoir. Mais de telles leçons ne se donnent qu'au lit, et je ne sais quel maître en reçut l'inestimable prix. Élégie 6. L'oiseau imitateur qui nous vient des Indes où se lève l'aurore, ce perroquet n'est plus. Habitant des airs, arrivez en foule à ses funérailles, venez, pieux oiseaux, frappez-vous la poitrine de vos ailes et sillonnez de vos ongles aigus vos zettes délicates. À défaut de pleureuses aux cheveux en désordre, arrachez vos plumes hérissées, que vos chants funèbres remplacent le clairon lointains échos. Pourquoi te plaindre, Philomèle, du crime du tyran ismarien? Les années ont dû mettre un terme à ces plaintes. Ne gémis plus que sur la fin déplorable de l'oiseau le plus rare. Le sort d'Iris fut un grand sujet de douleur, mais ce sujet est déjà bien ancien. Vous tous qui vous balancez noblement dans les plaines de l'air, et toi surtout avant les autres, fidèle tourterelle, partagez notre deuil. Toute sa vie fut digne de la vôtre, et il le montra jusqu'au dernier moment, ami fidèle et dévoué. Ce que fut le jeune phocéen pour l'argia Oreste, la tourterelle le fut pour toi, ô perroquet, tant que tu vécus. Mais que t'a servi cette fidélité, que t'a servi l'éclat de ton rare plumage, que t'a servi ta voix si ingénieuse à imiter la nôtre, que t'a servi d'avoir plu à ma maîtresse dès que tu lui fus donné, infortuné. Tu étais la gloire des oiseaux, et tu n'es plus. Tu pouvais, par un ton plumage, éclipser la verte émeraude. Le rouge incarnat de ton bec pouvait le disputer à la pourpre. Nul oiseau sur la terre ne parlait aussi bien que toi, tant tu mettais d'art à répéter en grasseyant les sons que tu avais entendus. Un destin jaloux t'a frappé. Tu ne volais point au combat sanglant. Ta localité ne t'empêchait pas d'aimer les douceurs de la paix. Nous voyons les cailles toujours en guerre, et à cause de ça, peut-être vivre de longues années. La moindre nourriture te rassasiait, et tu aimais trop à babiller pour aspirer sans cesse après les aliments. Une noix faisait ton repas. Quelques pavots t'invitaient au sommeil. Quelques gouttes d'eau étanchaient ta soif. Longue est la vie du vautour vide, avide, du Milan qui décrit de grands cercles au milieu des airs, et du jet qui pronostique la pluie. Longue aussi est la vie de la corneille, odieuse à la belliqueuse Minerve. À peine doit-elle mourir au bout de 9 siècles. Et il est mort, cet oiseau, qui savait si bien imiter la voix de l'homme, ce perroquet présent qui nous venait des extrémités du monde. Presque toujours les mains avares de la mort nous enlèvent d'abord les plus belles choses et laissent s'accomplir la destinée des plus mauvaises. Tersite vit le triste funérail de Pylades, et Hector était réduit en cendres que ses frères vivaient encore. Pourquoi rappeler les tendres vœux que fut pour toi ma maîtresse aimée à l'armée? Ces vœux qu'emporta au milieu des vers le Notus au front chargé de tempête. Tu avais atteint le 7e jour qui devait point avoir de lendemain. Et déjà pour toi, la parque avait dévidé tout son fuseau. Ta langue cependant ne resta pas inactive et glacée à son palais. Tu t'écrias en mourant « Comme adieu !» Corinne, adieu! Dans l'Élysée, sur le penchant d'une colline, Il est une forêt ombragée de chênes touffus. La terre humide y est tapissée d'un gazon éternel. Ce lieu, s'il faut en croire la fable, est, dit-on, le séjour des oiseaux dont la vie s'écoula dans l'innocence. Les oiseaux de mauvais augure en sont exclus. Là vivent réunis les cygnes inoffensifs et l'immortel phénix, qui n'a point son semblable. Là, l'oiseau de Junon étale avec orgueil son brillant plumage, et la caressante colombe se livre au baiser de son brûlant époux. Reçu au milieu d'eux, nouvel hôte de ses bocages, notre perroquet attire sur lui, par son babil, l'attention de ses pieux compagnons. Un tombeau recouvre ses os. Tombeau petit comme son corps. Sur une pierre, petite aussi, se lit cette brève épitaphe. On peut juger par ce monument combien je plus à ma maîtresse. J'avais pour lui parler plus de talent qu'il en est donné aux oiseaux. Élégie 7. Faut-il que je sois en butte à des accusations toujours nouvelles? J'ai beau sortir vainqueur de cette lutte, je suis las de combattre aussi souvent. Mes yeux se sont-ils portés sur les gradins élevés de nos théâtres, pompeux? Tu choisis entre mille la femme qui doit fournir un motif à tes plaintes. Qu'une innocente beauté fixe sur moi des regards muets, tu les accuses d'une secrète intelligence avec les miens. Que je loue celle-ci, tes ongles s'attaquent impitoyablement à ta chevelure. Que je blâme celle-là, me voilà coupable et voulant donner le change. Si mon visage est coloré, il trahit ma froideur pour toi. Et si je suis pâle, c'est que je meurs d'amour pour une autre. Certes, je voudrais être coupable des fautes que tu me reproches. On souffre sans se plaindre la peine qu'on a méritée. Mais toi, tu m'accuses sans motif, et par ton penchant à tout croire, sans raison, tu détruis toi-même l'effet que pourrait avoir ton ressentiment. Vois l'animal aux longues oreilles, vois l'âne misérable. Malgré les coups de fouet qui pleuvent sur lui, il n'en va pas moins lentement. Voici une nouvelle accusation. Si Passis, ton habile coiffeuse, tu la soupçonnes d'avoir souillé avec moi le lit de sa maîtresse. Peu préserve les dieux. Si l'envie d'être coupable ne vient jamais de l'être avec une femme d'une condition méprisable. Mais quel est l'homme libre qui voudrait s'unir à une esclave et presser dans ses bras un corps sillonné de coups de fouet? Ajoute que c'est elle qui est chargée de mettre la dernière main à ta coiffure, et que sa rare habileté t'a rendu de précieux services. Et j'adresserai mes voeux à une fille qui était si fidèle. Mais que gagnerais-je, sinon d'éprouver un refus et de t'être dénoncé? Je le jure par Vénus et par l'arc du volage amour, je suis innocent des torts que tu me supposes.